Et on va commencer par lire Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Alors, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Commencez. Ayant en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On va aller dans Romains chapitre 12, verset 16, un petit peu avant, Romains chapitre 12, verset 16. Il y aurait beaucoup de passages, mais j'en ai choisi quelques-uns. Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et puis on va vers la fin de la Bible, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. On peut naviguer. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. On va aller jusqu'au verset 6 même. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Je ne sais pas où on trouve. Verset 5, donc, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Humilez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors, pourquoi le monde se déchire aujourd'hui dans les guerres, dans tous les conflits, d'après vous? À cause de leur humilité? Trop d'humilité peut-être,
Non,
plutôt à cause de l'orgueil, parce qu'on voilà, on veut défendre nos droits, notre orgueil, notre ego qui est là. Et finalement, le monde démontre qu'il n'est pas humble, au contraire, qu'il est plutôt en train de se nourrir dans cet orgueil. Et même l'Église, parfois, arrive à se déchirer à cause de l'orgueil, et parce qu'il manque un peu d'humilité pour chacun d'entre nous. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, et vous répondez à vous-même, mais est-ce que moi-même, je suis vraiment humble? Est-ce que je suis arrivé enfin à être vraiment humble? Quand on cherche une définition rapide, on va dire... Savoir que le grec ne connaissait à l'adjectif que le sens de vil et de méprisable, au terme humble, humilité. Et en fait, on ne trouvera pas vraiment de définition avant le Nouveau Testament de l'humilité. Ça ne m'étonne pas tout le reste de l'histoire. Ils ne savaient pas ce que c'était certainement que l'humilité. Alors, c'est aussi avoir une opinion humble de soi-même. C'est aussi un sens profond de sa petitesse morale que d'être humble. C'est avoir un regard sur soi. On va voir plusieurs choses ce matin, comme j'ai marqué sur le tableau, mais l'idée c'est d'apprendre à vivre humblement. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à, on va dire, au top de votre humilité? On va dire, je crois que personne n'est arrivé, d'abord parce que ce n'est pas quelque chose qui est atteint une fois pour toutes, sauf si vous êtes mort, là vous serez toujours humble, mais c'est quelque chose qu'on va apprendre constamment, constamment et face à de nouvelles circonstances. Donc on va voir plusieurs choses. Premièrement, d'abord, que si je cherche une référence, moi, de l'humilité, évidemment, je vais la chercher en Dieu. Il n'y a pas plus humble que Dieu. C'est un attribut de Dieu. Mais c'est là où il y a une espèce de paradoxe, parce que quand on essaie d'imaginer Dieu, sa grandeur, sa souveraineté, sa majesté, sa puissance, il est humble. Alors que les hommes sont des petits orgueilleux avec une toute petite puissance qui a envie de lutter contre tout le monde. On voit le contraste. Dieu incarne en fait l'humilité par excellence, lui qui est majesté. Et ça c'est intéressant. Et il le prouve chaque jour. Parce que si Dieu devenait orgueilleux, qu'est-ce qui se passerait en fait? On brûlerait en 30 secondes, il n'y aurait plus de terre et ça serait réglé. Vous imaginez une once d'orgueil chez Dieu et c'est fini pour nous. Donc il nous prouve tous les jours qu'il est vraiment humble, non seulement avec ce monde, parce que là on pointe un peu le doigt vers le monde, mais avec moi-même aussi, déjà. Alors si ce Dieu qui est souverain, qui est au-dessus de tout, comme on a vu, qui est créateur de tout, comme on l'a vu dans le psaume tout à l'heure, si ce Dieu reste humble, alors qu'il pourrait être carrément le contraire. Pourquoi l'homme se prétend à être orgueilleux et se prétend à être au-dessus de Dieu des fois? C'est quand même extraordinaire. Hein? Et je parle là de moi, en tant que chrétien des fois. Hein? Moi, je suis orgueilleux des fois. Ça m'arrive encore, hélas. Hein? Mais quand je me compare à Dieu, en fait, ça donne plutôt envie de fléchir le genou. Alors, il y a l'exemple de Dieu, évidemment, il y a l'exemple de Jésus-Christ qui a démontré totalement cette humilité. Hein. Il se dit du Messie qu'il est humble et monté sur un âne, en Zacharie 9:9, je vais lire. « Sois transporté d'allégresse, fils de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Il faut comprendre que l'âne, ce n'est pas l'âne comme nous on le comprend, c'était quand même un signe de royauté à l'époque. Dans Matthieu 21:5, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus est venu comme roi, mais totalement avec humilité. Il aurait pu ramener tous ses anges, là, comme ça, des milliards d'anges qui viendraient avec lui dans Jérusalem, en disant, oh les gars, c'est moi le roi, taisez-vous. Il est rentré humblement dans cette Jérusalem. Et puis il a démontré cette humilité à la croix. Il est mort sur cette croix, humblement, et il a un cœur humble, puisque même en mourant, alors que c'était injuste, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle humilité il faut avoir pour mourir et pardonner en même temps à ces gens méchants qui étaient là autour de lui. Hein. C'était une caractéristique de sa personne, il était doux, il était humble de cœur. Et c'est là où on peut aussi voir que quelqu'un de humble, ce n'est pas quelqu'un qui est gna, qui est débile, on pourrait dire, ou toujours accepter tout. Ce n'est pas ça l'humilité, hein, parce que Jésus, face aux pharisiens, il était humble. Qu'est-ce qu'il faisait? Muraille blanchie. Hein. Moi, j'aime bien ces expressions, j'aimerais bien pouvoir les utiliser aujourd'hui. Ou serpent, je ne sais pas quoi, comme il disait. Il était plein d'humilité, mais il savait reprendre aussi ses ennemis. Donc il ne faut pas confondre l'humilité avec la faiblesse non plus. Jésus était le roi des rois et malgré son titre, malgré sa grandeur, il acceptait à un moment de se laisser dépouiller, se laisser humilier. Est-ce que moi, qui m'appelle Emmanuel, dans mon grand orgueil des fois, est-ce que je suis capable d'accepter de me laisser dépouiller et humilier par les autres? Pas toujours simple. Mais Jésus a incarné aussi cette humilité par excellence. Et Dieu nous demande tout simplement de l'imiter. On aime bien limiter jusqu'à une certaine dose ou une limite, on pourrait dire. Hein. Ouais, je veux bien te suivre, mais pas trop loin. Mais dès que ça commence à toucher notre petit cœur et notre ego, pas toujours simple. Il y a du travail là-dedans. Deuxième chose qu'on peut voir, hein, parce que moi, j'avais cherché dans toute la Bible, en fait, ce qu'est l'humilité. On voit qu'il est opposé à l'orgueil. Et ça, on le sait. L'orgueil, ça suit les traces du diable, tout simplement. Parce que Satan a chuté. Pourquoi ? C'était un archange qui était dans la présence de Dieu, en première position devant tous les anges, et à un moment, qu'est-ce qu'il a dit ? J'en ai pas assez, hein ? Je veux monter un cran juste au-dessus. Bon, c'est Dieu qui est là, c'est dommage. J'aimerais bien prendre sa place, peut-être, ou avoir la même gloire que Dieu reçoit. Et finalement, par orgueil, il a chuté, et il a amené une partie des anges avec lui. Il se croyait plus fort que Dieu, peut-être, je sais pas, il faut être vraiment un peu fou pour faire ça, mais bon. Il voulait peut-être prendre sa place, tout simplement, parce que bon, il y en a marre que l'autre soit tout le temps la gloire et moi, pas entièrement. Je pense que la position qu'il avait est déjà pas mal. Hein. C'était premier ministre, on pourrait dire, quelque part. Mais son orgueil l'a fait chuter. L'orgueilleux, finalement, s'estime au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui a une haute opinion de lui-même. Qu'est-ce que je suis bon? Qu'est-ce que je sais bien faire les choses? Il n'y a que moi qui arrive, les autres n'y arrivent pas. Et puis ça va bien plus loin, des fois, dans la tête de ces gens-là. Mais on l'a vu, Dieu connaît les orgueilleux. Psaume 138:6, il est dit, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Alors on peut se cacher dans son cœur comme on veut, même de loin, Dieu me voit avec mon orgueil. Donc je ne peux pas me cacher devant Dieu. Dieu les voit, il connaît leurs prétentions, il sait qui ils sont et pourquoi ils veulent agir de telle ou telle manière. Mais il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Terrible ça, mais il fait grâce aux humbles. Alors quand on regarde ce monde, on se demande quand même où est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux? Parce que quand je vois les guerres, quand je vois les dictateurs, hein, on avait vu la Corée du Nord, l'autre qui se prend pour Dieu lui-même, est-ce que Dieu résiste vraiment aux orgueilleux? Pas ce que je vois dans le monde pour l'instant. Oui, il doit le faire d'une manière plus différente que nous on voudrait. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. Mais à un moment, de toute façon, Dieu leur résistera et La Corée du Nord, on en a parlé, c'est pas parce que tout va bien aujourd'hui que du jour au lendemain, Dieu peut pas tout changer. Hein, il l'a déjà fait avec d'autres pays comme cela, communistes. Hein, donc il peut aussi le faire avec cela. Par contre, il fait grâce aux humbles. Et vaut mieux avoir la grâce de Dieu, je crois, qu'un Dieu qui va me résister à un moment dans ma vie. Mais vous savez, dans la vie chrétienne, à un moment, on peut devenir orgueilleux aussi. Hein. On peut ne pas accepter certaines choses. Et Dieu va devoir nous faire quelques petits croche-pattes, hein, comme on dit, pour qu'on apprenne l'humilité et qu'on arrête d'être orgueilleux. Quand on s'intéresse aux méfaits de l'orgueil dans la Bible, on voit dans Jérémie, par exemple, que l'orgueil séduit le cœur. En fait, il endurcit l'esprit et il trompe l'homme. Hein, quand on dit « je suis capable de tout, je suis le meilleur », en même temps, je suis en train de dire « quel menteur ! Je ne suis pas le meilleur, il y a toujours meilleur que moi déjà ». Mais ça trompe l'esprit, ça trompe le cœur. Et finalement, on vit dans le mensonge. Et le monde vit dans le mensonge aujourd'hui sans le Seigneur. Sans avoir à un moment découvert qu'il est pécheur, sans avoir découvert qu'il est perdu, il vit finalement dans le mensonge. Mais par orgueil, il veut continuer à vivre comme cela. « Je n'ai pas besoin de Dieu, moi. Je suis gentil, je suis bon, je n'ai jamais tué personne. Hein » Mais ça, c'est aussi de l'orgueil. Et il y a des gens qui se disent « Qu'est-ce que je suis humble ! Qu'est-ce que je suis humble ! » Ça commence, c'est l'orgueil, en fait, ça commence là, tout simplement. Mais ça séduit le cœur, ça excite la querelle, nous dit Proverbe 13, 10, hein, et il précède souvent la chute et la ruine. L'orgueil a un temps. Si vous regardez ça dans l'histoire, ça a un temps. Il y a des grands rois, des grands empereurs qui ont eu beaucoup d'orgueil, qui ont bâti des empires, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. C'est ça le problème. Et l'orgueil, c'est juste pour un temps. Alors oui, on a une petite gloriole pendant un petit moment, mais à un moment, de toute façon, Dieu reprend le cours des choses et finalement, on s'effondre. Et c'est pareil pour nous-mêmes. On peut être orgueilleux, on va chercher des querelles, on veut avoir le pouvoir ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut faire. Mais c'est juste pour un temps. Et après, c'est fini. Par contre, celui qui est humble, lui, va durer dans le temps. Finalement, l'orgueil, on s'y intéresse, c'est vraiment quelque chose qui est étranger à l'amour. On ne peut pas aimer en étant orgueilleux. Parce que l'orgueilleux s'aime lui-même, mais il n'aime pas le prochain. Il s'adore lui-même, mais il ne peut pas aimer les autres. Et forcément, il ne peut pas répondre au commandement du Seigneur d'aimer son prochain, puisqu'il ne s'aime que lui-même. Et puis, il y a la fausse humilité qui fait partie aussi d'une espèce de mélange d'orgueil. Là, hein. Par exemple, dans Colossiens 2, 18, il est écrit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes, il y a un tas de grands hommes qui ont des visions, qui voient un tas de choses pour Dieu, soi-disant, l'un qui était au ciel et qui reviennent à ce qui paraît. Bon, enfin bon, n'écoutez surtout pas ce genre de choses. Et avec un esprit d'humilité, ils vont vous raconter toutes ces choses-là. Mais en fait, ils trompent les gens. Quelque part, il y a une fausse humilité mélangée d'orgueil. Et c'est souvent bien charnel, tout cela. On peut avoir cette fausse humilité aussi dans les actes. Montrer, par exemple, aux autres, « Oh là, comme il est humble, regarde, il fait certaines choses, l'ascétisme, par exemple, ou avoir une apparence de sainteté, et au fond, finalement, j'essaie de montrer aux gens que je suis saint, mais je fais ça par orgueil. » Je fais ça par orgueil. Celle de paraître aussi, hein, il y en a qui veulent paraître plus riches qu'ils ne sont, mais il vaut mieux rester humble. Il y en a qui essayent d'acheter des grosses voitures alors qu'ils n'ont qu'un petit SMIC, parce qu'ils veulent paraître. Et à la fin, ils se retrouvent avec des crédits revolving pendant toute leur vie. Mais paraître pourquoi ? Pour l'orgueil, tout simplement. Pour montrer que je suis quelque chose. Hein, mais il vaut mieux rester humble, parce qu'au moins, il ne payera pas les crédits, l'autre. Finalement, je pense qu'au fond de nous, et je me dis à moi-même, on pense tous être humbles. Non ? Pas des gros orgueilleux, quand même. Qui est orgueilleux, ici ? Allez. Ah mince, je voulais l'effet inverse. C'est pas mince. Ah oui, je prends les noms alors. Hein. On est tous orgueilleux. On est tous encore dans des domaines. Mais à un moment, il faut en prendre conscience, tout simplement. Et puis, vous savez, on peut avoir des périodes où on est vraiment humble, et il suffit qu'il arrive une épreuve, une difficulté ou des choses, et puis on voit là le cœur qui revient naturellement avec son ego et qui va le défendre. On pense quand même des fois être humble, mais de temps en temps, il faut s'arrêter et demander au Seigneur d'éclairer notre cœur, de mettre vraiment la lumière. Pas trop, hein. Parce que ça fait peur. Quand il veut vraiment la lumière sur nous, il garantit que ça fait peur. L'orgueil est donc opposé au caractère et à la volonté de Dieu. Quelqu'un écrivait, C.S. Lewis, qui est un philosophe, hein, je pense que certains connaissent, il disait « En Dieu, vous vous heurtez à quelque chose qui, à tout égard, vous est incommensurablement supérieur. Si vous ne reconnaissez pas Dieu sous cet aspect, conscient que vous n'êtes rien en comparaison, il vous reste inconnu. Aussi longtemps que vous persistez dans votre orgueil, vous ne pouvez connaître Dieu. Un orgueilleux abaisse toujours son regard vers les choses et les êtres. Et bien entendu, aussi longtemps que vous regardez vers le bas, vous ne saurez voir ce qui est au-dessus de vous. Je trouve ça très beau, comme il le dit. À un moment, il faut savoir lever les yeux, parce que l'orgueilleux regarde en bas, regarde sa propre personne, et celui qui est humble va lever la tête et va regarder celui qui est au-dessus de lui. Et quand on lève la tête, en même temps, on va devoir fléchir le genou, parce que, eh ben, on remarque notre orgueil, mais on remarque aussi la gloire de Dieu. C'est des sons bizarres aujourd'hui. Troisième chose qu'on peut voir dans la Bible, c'est vivre l'humilité, mais au quotidien, comment la vivre ? Moi, je pense que vivre l'humilité, c'est d'abord une décision personnelle. Ça ne vous tombe pas comme ça du coin de « Ah, tiens, je suis humble ». Non. D'abord, réaliser qui on est vraiment, et puis à un moment, se dire « Voilà, je dois changer dans ma vie certaines choses ». C'est un acte volontaire. Dans Colossiens 3:12, il dit « Il faut se revêtir de l'humilité ». Ça signifie que j'ai peut-être un vêtement là qui s'appelle l'orgueil, et on ne met pas l'humilité sur l'orgueil, je pense. On le fait souvent, mais il faudrait d'abord enlever la veste de l'orgueil, et ça c'est que Dieu qui peut faire ce travail, pour ensuite revêtir la veste de l'humilité. C'est facile de changer comme ça, la veste. C'est qu'une veste, on change la veste tous les jours, non ? Ah, enlever l'orgueil de notre cœur, c'est quelque chose de très très difficile. La Bible nous dit dans Matthieu 18:4, il s'agit de se rendre humble tel un petit enfant. Revenir comme un petit enfant. Alors, on ne fait pas aga-bouzou-bouzou, on s'entend bien. Mais la simplicité de ce cœur qu'a un enfant. Parce que l'enfant se soumet, en fait, à ses parents. De la même manière, enfin, normalement, il se soumet. Hein. Pas toujours le cas, mais bon. Ben, comme nous, on ne se soumet pas toujours à notre Seigneur. Mais le Seigneur nous voudrait comme des enfants qui se soumettent à Dieu. Et quand je me soumets à Dieu, forcément, ça va passer par le filtre orgueil pour me pousser vers l'humilité. Dieu veut que l'on marche humblement avec lui. Nous dit Michée 6:8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le Seigneur veut que notre quotidien soit une marche avec lui, mais dans l'humilité. Et l'homme qui est humble, c'est aussi celui qui cherche Dieu. Quand on est orgueilleux, on n'a pas besoin de Dieu. J'y arrive tout seul. Jusqu'au moment où on tombe. Mais l'homme humble recherche Dieu parce qu'il connaît sa faiblesse. Calvin disait « Il n'y a rien qui soit meilleur pour modérer en nous cette rigueur excessive que la connaissance de notre infirmité. » On n'apprendra pas à devenir humble tant qu'on n'a pas découvert notre infirmité, notre faiblesse, nos défauts. Toutes ces choses qui doivent changer dans notre vie et qui finalement produisent l'orgueil en nous. Il y a du travail. Il y a du travail jusqu'à la fin de notre vie, je crois. Mais avec le temps, moi je pense que Dieu arrive à nous changer, à nous modeler et à nous rendre de plus en plus humbles. L'humilité est préférable à l'orgueil, je pense. C'est se laisser attirer par ce qui est humble. On l'a lu tout à l'heure dans Romains 12, 16. Se laisser attirer par ce qui est humble, mais pas par ce qui est élevé. Alors dans le monde, si vous disiez maintenant, on va chercher les choses les plus simples pour les politiques et tout ça, ou même pour les hommes, généralement, qu'est-ce qu'ils veulent ? La première place, tout en haut. On veut, et on est prêt à tout faire. Alors, on voit aujourd'hui ce qui se passe avec ces élections. On est prêt à tout faire pour être le premier. Et tant pis, même si on ment, même si on triche, c'est l'orgueil, tout ça, tout simplement. Mais il n'y a pas que ces hommes. Il y a tous les hommes qui sont comme cela. Et dans la mesure de son travail ou ailleurs, on a toujours envie d'être le premier. Enfin, pour certains. Il y en a qui n'ont pas envie de l'être premier parce qu'ils veulent rester derrière parce qu'ils ont fait néant. C'est aussi une forme d'orgueil, quelque part. Oui. Il y a un équilibre entre les deux. Mais la Bible nous dit de nous laisser attirer par ce qui est humble. L'humilité ne cherche pas les premières places, mais il met Christ en avant. J'ai envie de dire, même quelque part, on se cache derrière Christ pour que lui soit mis en avant et que moi, je sois juste derrière. L'humilité se cherche avec la justice aussi. On voit dans Sophonie 2:3 que les deux sont liés, en fait. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés du jour de la colère de l'Éternel. Il y a un lien, en fait, entre l'humilité et la justice. De toute façon, si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas être juste. On est bien d'accord. Bien souvent, vous défendez votre propre justice, mais ce n'est pas une justice qui soit parfaite. Mais l'orgueil est injuste. Par contre, celui qui est humble cherche aussi à être juste avec son prochain. Finalement, l'humilité, ça nous veut du bien. Hein ? On a vu tout à l'heure, l'orgueil déchire le monde. Mais si le monde était humble, vraiment humble, moi qui suis riche, hein, ben tiens, par humilité, je vais aider tous ceux qui sont pauvres au lieu de m'acheter un yacht de nouveau, ou de convoiter tel ou tel pays, ou pipeline, ou je ne sais pas quoi. Je vais arrêter tout ça. Et je vais donner aux autres, à ceux qui ont vraiment besoin. Parce que la terre, en fait, elle a suffisamment pour nourrir tout le monde. Hein. Ce n'est pas normal qu'il y ait de la famine. Ce n'est pas normal qu'il y ait toutes ces choses. Mais c'est pourquoi ? Parce que l'orgueil de l'homme est là. Moi, moi, moi. Alors on voit ça au niveau peut-être mondial, mais c'est au niveau personnel bien souvent aussi, hélas. L'humilité, c'est regarder comme Dieu nous regarde. Mettre des lunettes, on pourrait dire. Hein. Savoir une juste appréciation de nous-mêmes. Et un grand auteur, Ralph Schalich, je ne sais pas si vous connaissez, a écrit quelque chose. Il disait, l'humilité n'est que la vision claire, c'est voir les choses comme elles sont. Tu es un homme génial, c'est Christ qui a créé ton cerveau et qui t'a donné tes capacités. Tu es la jeune fille la plus jolie de toute la ville, c'est Christ qui a façonné ton visage, ce n'est pas toi qui l'as fait. Pourquoi donc en être orgueilleux ou orgueilleuse ? Tout ce que tu possèdes de valable, c'est Dieu qui te l'a donné, toute la gloire le revient à lui seul. Tu es le chrétien le plus spirituel, le plus avancé de ton église, c'est pourtant Christ qui t'a donné cette nouvelle vie et qui a mis dans ton cœur le désir même de l'aimer. L'orgueil personnel est donc la plus grossière des folies. C'est en réalité un manque d'intelligence, une inconscience totale des réalités. Alors si Dieu te donne une charge dans l'Église, c'est parce qu'il reconnaît la valeur de l'œuvre que lui a faite en toi et que lui peut faire par toi. Tu n'es pas meilleur que les autres, car nous sommes tous de nature totalement corrompue aux yeux de Dieu. C'est lui qui remplace notre ancienne nature par une nouvelle nature à l'image de Christ. Donc, alors il rajoute pour les responsables. Si donc les responsables de l'Église ne font pas preuve de cette modestie saine et normale, ils ne sont tout simplement pas dignes d'être responsables. Et c'est valable pour chacun d'entre nous dans nos activités dans l'Église. C'est Dieu qui m'a placé à une certaine place. Elle n'est pas meilleure que l'autre, parce que Dieu veut faire travailler chacun, mais chacun a besoin d'être à un endroit. On ne peut pas tous être au même endroit, sinon ce n'est pas efficace quelque part. Mais n'oublions jamais que c'est Dieu qui m'a placé là. Pas grâce à moi ou à mes grandes qualités ou parce que je suis beau ou parce que je sais pas, je suis intelligent. C'est Dieu qui me place là. Et là, le regard change finalement dans l'exercice de mon service. J'ai un peu moins d'orgueil dans ce cas-là, mais beaucoup plus d'humilité parce que Dieu peut aussi enlever ça du jour au lendemain. On peut tomber malade du jour au lendemain et c'est fini. Et là où j'étais tellement fier dans mon orgueil de faire des choses dans l'Église, finalement, je peux plus les faire. J'ai vu l'homme 23 ans en prison, le pasteur là, on avait parlé la semaine dernière. Il a appris à connaître Dieu, vraiment. C'est regarder l'autre aussi comme au-dessus de nous-mêmes, avoir un vrai regard de l'autre. Parce que l'orgueilleux est, il est au-dessus de tout le monde. Vous êtes petit par rapport à moi. Voilà. Non, l'humilité regarde vraiment l'autre comme il est. Ça nous libère aussi de la vanité. Et en même temps, ça permet d'avoir des prévenances réciproques, de travailler avec l'autre. Et puis l'humble reste avec les humbles. Il n'aime pas les orgueilleux. Il ne peut pas être avec les orgueilleux. Il reste simplement avec ceux qui ont le même caractère que lui et que Dieu, quelque part. L'humilité doit régir aussi nos relations les uns avec les autres, parce que sinon, on s'entretuerait, un peu comme le monde. C'est notre vocation, en fait, en tant que chrétien, de vivre humblement. Si je me surprends à devenir orgueilleux, c'est que je ne suis pas en train de vivre ma vocation. Pourtant, Éphésiens nous dit qu'on doit vivre ensemble en nous supportant les uns les autres. Qui est insupportable, là ? Là, on dit rien. On est tous insupportables pour son voisin, peut-être. Ou un jour ou l'autre, on le sera. Je sais que je le suis, des fois. Et vous l'êtes aussi. Donc, ça va. Mais il faut le reconnaître à un moment qu'on est ainsi. Mais la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres. Et ce n'est pas par l'orgueil qu'on va réussir à se supporter. Là, on va plutôt se massacrer. Mais plutôt par l'humilité. Et supporter quelqu'un avec humilité, c'est... Ça pèse, ça blesse un peu le cœur, c'est des fois lourd à faire. Mais le Seigneur nous demande de le faire. Et c'est comme ça qu'il veut aussi que son Église grandisse. Tous doivent se revêtir d'humilité dans les rapports les uns avec les autres. On a vu dans 1 Pierre 5:5. Pas que le pasteur, tous, chacun d'entre nous, qu'on soit grand, âgé ou pas. Et chaque chrétien est appelé à avoir les mêmes pensées. On avait une seule même pensée. Alors ça veut dire qu'on pensait la même chose chacun. Mais la pensée, c'est que dans l'Église, dans ses relations avec les frères et les sœurs, je veux les vivre avec beaucoup d'humilité, en regardant mon frère, ma sœur, comme étant au-dessus de moi. Et si lui me regarde de la même manière, finalement, tout ça, ça s'équilibre quelque part. Chacun se regardait vraiment comme en dessous de l'autre. Pas qu'on soit nul, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais en dessous de l'autre, qui respecte l'autre, qui l'aime finalement l'autre, eh ben, quelle belle Église ça sera. Quelle belle Église ça sera, et vous allez voir les choses qu'on peut faire comme cela. Et puis cette humilité dans le service chrétien aussi, hein. Servir Dieu se fait avec humilité, que ce soit dans les difficultés, dans les conflits, dans tout ce que la vie peut nous... Moi je pensais à Paul quand j'ai écrit ça, Paul a été humble dans toutes les situations de sa vie, et pourtant il y a des moments... Hein, moi, j'aurais écrit quelques lettres aux églises qui étaient en train de reprendre, enfin, de reposer la question de son autorité. J'aurais dit, écoutez les gars, commence à me saouler, hein. Mais il ne l'a jamais fait. Il a toujours répondu avec amour. Il a toujours été humble. Il n'était pas parfait, hein. On est bien d'accord. Mais il a gardé cette humilité dans tout son service. Sachons accepter que le succès de notre service, finalement, vient de Dieu. Si un jour cette église grandit, ce ne sera pas forcément à cause des responsables ou à cause de l'un ou de l'autre. Alors, on a notre part, on est bien d'accord, hein, parce qu'on fout tout le monde dehors, ça ne marchera pas. Mais, à un moment, on peut se dire, tiens, j'ai 5000 personnes maintenant, ah, grâce à moi. C'est ça? Et là, j'imagine la foudre de Dieu qui te tombe dessus. Hein. Mais il y en a qui sont comme ça. Hein. Moi, j'ai une église de 5000 personnes, mais mon gars, mais couplant en plusieurs églises, SM, parce que dans la France, il a besoin. Mais le succès, quoi qu'il ait dans l'église ou dans mon service, tout ça, ça revient à Dieu. Hein. Quelqu'un parlait d'une hache, pour imaginer ça. La hache ne peut pas se vanter des arbres qu'elle a coupés. Elle ne pourra rien faire sans le bûcheron. Il l'a fabriqué, il l'a aiguisé, il l'a utilisé. Dès le moment où il la jette de côté, elle n'est plus que du vieux fer. Oh, que je n'oublie jamais ça. Je suis qu'un outil entre les mains de Dieu. Il se sert de moi, il fait son œuvre à lui, il bâtit son église à lui. Et puis moi, ben, je suis simplement un outil là-dedans. Paul, lui, préférait se glorifier de sa faiblesse. Et là-dedans, il nous dit en même temps qu'il était dépendant de Dieu. L'orgueilleux n'a pas besoin de Dieu. Il va travailler, il va foncer, il va faire les choses pour lui-même. Mais celui qui est humble doit apprendre à temporiser, poser la question à Dieu, dépendre de Dieu. Et accepter aussi ben, qu'il est faible. Si on a des projets, moi j'aime pas des fois les projets parce que je sens toute ma faiblesse de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut déménager, il faut acheter, est-ce qu'il faut faire un crédit. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Sauf si j'avais une vision vraiment claire de Dieu, un petit SMS, ça irait mieux, mais c'est pas comme ça. Mais Paul préférait se glorifier de sa faiblesse. Et quand on se sent faible devant Dieu, quand on montre nos limites, c'est là où il agit généralement, et il va nous donner les réponses. Ça qui est formidable. Hein. Attention de ne pas servir dans l'église pour notre orgueil. Hein. Le pasteur, un jour, qui avait visité une personne, et m'a dit, alors comment ça va dans l'église? Et la personne disait, ah, mais moi, je vais dans la chorale, je sers ici, je fais les enfants, je fais ça, je fais un... Et à un moment, le pasteur a dit, mais stop. Je voudrais savoir si vous connaissez Jésus. Pas ce que vous faites. Parce que beaucoup de gens assimilent leur vie chrétienne à ce qu'ils font, et pas à la connaissance de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises catholiques qui font des choses et croient que c'est ça, finalement, avoir une relation avec Dieu. C'est pas ça. Il faut d'abord connaître vraiment Jésus-Christ. Alors pour ça, il faut évidemment se repentir, accepter qu'on est pécheur, accepter qu'il est mort pour moi, et ensuite apprendre à vraiment connaître Jésus-Christ au quotidien pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Et pas travailler juste pour moi-même. Il y a beaucoup de gens qui travaillent juste pour eux-mêmes. D'ailleurs, il est dit aussi dans 1 Timothée 3,6, bon, c'est par rapport à la charge de pasteur ancien, que si on est un jeune converti, il vaut mieux pas y penser même. Pourquoi? Parce que quand je suis jeune converti, ben, je risque d'être gonflé d'orgueil, et le diable derrière va me faire tomber. Donc il faut accepter que Dieu se sert de moi, mais en même temps que je dois rester humble, et réaliser vraiment qu'il n'a pas besoin de moi, honnêtement. Il n'a pas besoin de moi. Il pourrait utiliser quelqu'un d'autre. Mais il se plaît, c'est ça qui est formidable, il se plaît quand même à nous faire travailler avec lui. C'est un honneur plutôt, hein, plutôt que de l'orgueil quelque part. Le chrétien vit donc et sert humblement pour faire éclater la gloire de Dieu, pas la sienne. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens ont mal compris cela, on parle des grands noms, des grands auteurs, des grands machins. Jamais entendre parler du grand Dieu, de, hein, et, enfin bon, bref. Ça m'énerve des fois. Quatrième chose, les avantages de l'humilité, parce qu'il faut quand même qu'on voit ces avantages. Ils ne vont peut-être pas vous plaire, mais bon. L'humilité, ça produit la croissance spirituelle. On veut tous grandir, non? Qui veut grandir? Il n'y a pas grand chose, il a suscité déjà. Alors comment Dieu a fait grandir les gens dans la Bible? Il y a deux exemples bibliques, par exemple. Dieu a humilié son peuple dans le désert pendant 40 ans. Ça vous dites, passer 40 ans dans le désert? Avec un peu de manne et quelques cailles tout le temps. Hein. C'est-à-dire, à l'époque, je travaillais en boucherie et j'avais la chance d'avoir les cailles gratuites. Et on en a mangé les cailles. Hein. Et au bout d'un an, j'ai dit, mais comment ils ont fait 40 ans quoi? J'en ai marre. J'aurais râlé comme eux, à mon avis. Mais ça, ça a permis la croissance de ce peuple. Ça a d'abord fait le ménage, hein, pendant 40 ans dans le désert. Et finalement, ils ont sorti un peuple un peu plus humble. On connaît la suite. Hein. Mais parfois, dans notre vie, il faut des déserts. Et on voudrait avancer, et Dieu nous laisse là dans ce désert. Parce que moi, passer 40 ans là, comme l'a fait Josué, il était quand même humble. Hein, alors que lui, il voulait rentrer dans la terre promise. Il a quand même accepté de passer 40 ans. 40 ans, je ne sais pas, vous imaginez, c'est long. Mais il a accepté, et ça produit cette humilité aussi en lui. Puis un autre exemple, c'est Paul. Paul avait une connaissance énorme, avait des révélations de Dieu. Et à un moment, ben, lui-même le dit, tout ça, ça aurait pu l'enorgueillir. Et qu'est-ce que Dieu lui a mis dans sa chair? Une écharde. Alors on ne sait pas ce que c'est pas important, mais cette écharde était là tout simplement pour temporiser. Hein, Dieu donne de grandes révélations à cet homme, mais en même temps, il a tout fait pour temporiser son orgueil et qu'il n'enfle pas, tout simplement, parce que le diable l'aurait vite rattrapé. C'est ça, l'humilité qui produit en fait la croissance spirituelle. Passer les déserts, que Dieu mette des choses en nous pour nous garder vraiment humbles. Alors pourquoi avons-nous besoin d'être humiliés? Ben tout simplement parce que naturellement, on s'éloigne de Dieu. Si tout va bien pendant un an, deux ans, trois ans, salaire, travail, la famille, pas de maladie et tout ça, faites le bilan. Vous ne serez peut-être même pas là le dimanche matin. Tout va bien. C'est que dans le sud, c'est très difficile de témoigner, d'évangéliser, parce que vous avez le soleil, il y a du travail, il y a la mer. Ah, ça me fait rêver. On n'a pas besoin de plus. C'est souvent dans les pays où on souffre qu'on a besoin du Seigneur. Mais on s'éloigne naturellement de Dieu. Psaume 119, 67 dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » On a besoin d'être humilié par le Seigneur parce que naturellement, nous nous éloignons de lui. L'humiliation de Dieu nous préserve, nous protège en fait de la tentation de l'orgueil qui finalement nous rend tristes. Quand Dieu me reprend, c'est parce que moi-même, je ne vois pas que je m'éloigne et que finalement, je suis en train de m'attrister de plus en plus. On ne le voit pas, ces choses-là. Et Dieu m'arrête et me montre mon orgueil et me rend humble et finalement me fait retrouver ma joie initiale. L'humilité permet aussi d'apprendre les voies de Dieu et sa sagesse. Hein. Dieu conduit les humbles dans la justice. Avant d'être humilié, on l'a vu, hein, l'homme s'égare, mais dès qu'il est repris ou dès qu'il devient humble, il apprend à observer la parole et à la mettre en pratique. Et quelque part, il devient sage. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui veut apprendre les statuts de Dieu, qui veut apprendre la volonté de Dieu. Et quand on fait la volonté de Dieu, finalement, on devient aussi sage. Psaume 25, 9, il est dit « Dieu conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Dieu enseigne les humbles dans leur voie. Par contre, l'orgueilleux, lui, il n'écoute pas. Il n'a pas besoin. Il sait tout. Pas besoin d'écouter la sagesse. Il est déjà sage à ses propres yeux. Puis la Bible nous dit que la sagesse est avec les humbles. Avec l'orgueil vient l'ignominie souvent, et puis les guerres et tout le reste, mais la sagesse reste avec les humbles. Et dans cette humilité, je peux vivre de façon sage vis-à-vis des uns et des autres, finalement aimer aussi mon prochain. Mais comme j'ai dit, la sagesse ne peut pas s'apprendre si on sait tout. Pas besoin d'être sage. Si je sais tout, si je me sens déjà sage, si je suis orgueilleux. Et finalement, mon orgueil va m'empêcher de grandir avec le Seigneur. Et la Bible nous dit aussi quelque chose de formidable, je trouve, c'est que l'humilité conduit à la gloire. Ah, tout un paradoxe là, parce que dans le monde, on cherche la gloire avec l'orgueil, hein, et on atteint la gloire avec notre orgueil. Alors qu'en fait, la Bible nous dit qu'on va atteindre la gloire à cause de notre humilité. Le monde ne peut pas comprendre ça. Même nous, des fois, on a du mal à comprendre. Si l'orgueil conduit à la ruine, la Bible nous dit que l'humilité conduit à la gloire. D'abord, ce premier pas, on pourrait dire, d'humilité, que d'accepter sa nature pécheresse. quand on s'est converti, on a dû faire un sacré pas d'humilité. Je ne suis pas parfait. Oui, je n'ai pas tué, je ne fais pas comme les autres, mais j'ai péché. J'ai eu des mauvaises pensées, j'ai peut-être menti à un moment. Il y a un tas de péchés qui existent. Et celui qui se convertit, c'est celui qui devient humble, accepte clairement l'état dans lequel il est. Et il faut beaucoup, beaucoup d'humilité pour ça. C'est pour ça que le monde ne se convertit pas. Parce qu'il préfère garder son orgueil. Et une fois que j'étais humilié devant Dieu de découvrir ma nature pécheresse, mais lui va me conduire à la grâce. Et après la grâce, au salut. Et dans cette grâce, il conduit évidemment vers la gloire à venir. Vivre humblement, c'est être approuvé par Dieu. Et quand je suis approuvé par Dieu, je lui rends gloire, et lui me rend cette gloire d'une certaine manière. On ne la vit peut-être pas totalement aujourd'hui, mais un jour, quand on sera dans la gloire de Dieu, on va dire, waouh, c'est beau. Vous avez déjà imaginé la gloire de Dieu? Il faut mettre des lunettes de soleil. Hein. Et donc ce salut qui conduit à la glorification, finalement, va conduire à ce paradis, et le paradis est rempli de personnes humbles. Bon, on va être transformé, mais imaginez le paradis rempli d'orgueilleux, de gens qui disent « Moi, je suis le meilleur des chrétiens. Vous, vous êtes des chrétiens à demi. » Vous imaginez le paradis comme ça? Ça ne serait pas terrible, terrible, terrible. Ça ressemblerait à la terre. Mais tous ceux qui seront avec le Seigneur, c'est des gens qui ont été humiliés, qui ont accepté de le suivre, qui ont accepté leur nature, qui ont accepté de marcher et d'être approuvés aussi par lui. Et là-haut, on n'entendra plus jamais parler d'orgueil. J'arrive pas à imaginer ça dans ma tête, ne plus avoir d'orgueil. Bizarre, mais on verra bien, on a le temps pour ça. Finalement, l'humilité plaît à Dieu et rend l'homme fort et heureux. Il y a des gens qui sont orgueilleux, qui ravagent tout, qui croient que c'est comme ça qu'ils sont heureux. Bien souvent, ils sont très malheureux dans leur cœur. Par contre, celui qui veut être fort, qui veut être heureux, eh bien, c'est quelqu'un qui va chercher l'humilité. Et en plus, non seulement il va être fort et heureux sur cette terre, mais en plus, tout cela, c'est pour l'éternité, une joie éternelle. Pour terminer, le Seigneur nous a montré, par son exemple, qu'il incarne l'humilité par excellence. Et on l'a dit, si lui, qui est si grand, vit de façon humble, est humble dans sa personnalité, agit de façon humble, ça doit me faire réfléchir. Le diable, par contre, lui a démontré les ravages de l'orgueil. Et il les démontre encore aujourd'hui. Il y a un sacré contraste quand même entre les deux personnages et leurs actions aussi. Donc le diable est un exemple à ne pas suivre, on est bien d'accord. Et chaque fois, de toute façon, que nous laissons notre orgueil grandir dans notre cœur, finalement, on suit le diable, on fait comme lui. Alors apprenons à vivre cette humilité, mais quand je dis ça, c'est aussi en acceptant que le Seigneur me corrige de temps en temps. Et des fois, il utilise les autres aussi pour me corriger. Pas toujours simple. Alors il envoie aussi des fois des ennemis, on pourrait dire, pour nous apprendre l'humilité. Mais des fois, il emploie aussi les autres pour nous remettre à notre place, parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas toujours simple à accepter. On préfère être corrigé par le Seigneur que par les autres. Hein. Mais souvent, le Seigneur emploie les autres pour corriger, pour qu'on apprenne. Que le Seigneur produise de l'humilité dans notre cœur, qu'on ne se satisfasse pas de 50% d'humilité. 55? Qui dit mieux, là? Il n'y a personne qui dit rien, là. Il faudrait arriver au moins à 80, ça serait bien déjà. Si l'Église vivait à 80% d'humilité, moi je pense qu'on aurait une belle Église déjà. Mais on peut demander dans son cœur, de toute façon on va prendre un moment de prière, on peut demander dans son cœur au Seigneur de produire cette humilité en nous. Et finalement, j'aimerais que l'humilité soit la marque de fabrique ou le logo, on pourrait dire, de notre Église. Et que quand quelqu'un vient dans cette Église, il découvre vraiment des gens humbles qui accueillent avec humilité et non pas avec orgueil. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lumière et qui éclaire nos cœurs. Et face à cet éclairage où découvrons notre réalité, notre vraie personne, et devant toi rien n'est caché. Et tu sais encore combien il y a d'orgueil, d'ego qui se défend là, qui se bat encore contre toi. Et pour ma part aussi, apprends-nous à te laisser travailler dans notre cœur, à être humilié par toi, à devenir humble et finalement devenir sage. Seigneur, quel travail! Apprends-nous à te laisser faire dans notre vie. Seigneur, merci parce que tout vient de toi, comme on l'a dit, et dans notre Église, que nous puissions te servir en te connaissant, Seigneur, et pas simplement te servir pour te servir, et apprendre à te connaître davantage. Et évidemment, ça passe par cette phase humilité, Seigneur. Je te prie aussi pour ce monde qui se perd dans son orgueil, qui finalement est triste et ne s'en rend pas compte. Je pense à nos collègues, à nos voisins peut-être, à nos amis, nos familles même. Seigneur, fais souffler ce vent d'humilité dans leur cœur et qu'ils puissent te reconnaître, qu'ils puissent découvrir la joie de celui qui est humble et qui finalement est plein de gloire devant toi, Seigneur. Apprends-nous aussi dans notre Église, dans les relations les uns et les autres, à être humbles. Et si parfois l'orgueil rejaillit, Seigneur, merci parce que tu nous permets de nous pardonner aussi les uns les autres et repartir davantage dans cette humilité. Bénis cette Église, Seigneur, et fais-nous du bien encore. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.